RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Tiens, je passe un petit bonjour à Guillaume du bistrot de Paris, rue de Lille, à Paris, où je me suis arrêté déjeuner samedi. C'est un fan des GG. Il écoute en direct ou il écoute
une en podcast.
Et il salue toute l'équipe qui m'a offert le café.
Ah, donc ça valait bien, salut.
Bah, tu vois, si t'étais un politique, t'aurais pas pu l'accepter, ce café. Parce qu'on te l'aurait reproché.
C'était un début
de corruption.
Ah ouais, tu crois.
Voilà.
Ouais. En tout cas, je remercie Guillaume pour son accueil, la discussion qu'on a eue autour des GG. Il salue toute l'équipe et moi, je les salue aussi. Parce que c'est un moyen de bien commencer la journée en écoutant les grandes gueules, en mettant la table et bien sûr. Donc, salut Guillaume. Charles Consigny est là, l'ami Jean-Loup Bonamy aussi, Flora Guebali et des nôtres. De quoi va-t-on parler dans cette deuxième heure des GG? De l'acompte sur salaire qui sera bientôt facilité. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça dit aussi, il s'en dit beaucoup sur une France qui a du mal à joindre les fins de mois, qui a du mal à joindre les deux bouts et qui demande à ce que le salaire puisse être donné en avance comme ça, sans attendre le 29 du mois. Édouard Philippe peut-il battre Jordan Bardella? Apparemment c'est le mieux placé, Édouard Philippe, le futur champion de la droite et du centre. Mais d'abord on va s'intéresser au saccage de la mairie de Fresnes. Alors c'est une enquête qui a été ouverte pour violence, dégradation. C'était après ce qui s'est passé à la mairie vendredi soir, où on a vu une bande cagoulée en survêtement s'introduire dans la mairie et saccager une partie des locaux. Voilà ce qu'en disait la population de Fresnes, qui est bien évidemment quand même touchée, émue, et qui estime que c'est parce que la ville est passée à droite qu'on s'en est pris aux locaux municipaux.
La commune, elle est à gauche depuis un siècle. Et elle est passée à droite, à quelques voix près. Et bon, il y en a qui n'ont pas supporté.
C'est à l'image de ce qui se passe en France en ce moment, d'une façon générale.
On vit dans un drôle de monde. Là, c'est inimaginable. Moi, ça fait 53 ans que j'habite ici, j'ai jamais vu ça. Et j'ai travaillé en mairie pendant 11 ans. Et vraiment, c'est écœurant.
Oui, c'est vrai que la mairie change d'équipe municipale. Hein. C'est désormais un maire de droite après 90 années de règne de la gauche.
Il faut reconnaître qu'au-delà de Fresnes, on n'a jamais vu des passations de pouvoir, des changements de pouvoir dans ces villes se passer aussi mal, avec des maires qui ont été vilipendés, insultés, conspués dans plusieurs villes. Et là, effectivement, à Fresnes, c'est une ville qui était à gauche depuis très longtemps, qui passe à droite. Fresnes, c'est en région parisienne. C'est connu surtout pour sa prison. Il y a 29 500 habitants. Alors, tout le monde sur place, visiblement, fait le lien entre ce qui s'est passé vendredi soir et les municipales. Parce que vendredi soir, c'était la veille de la passation de pouvoir entre la nouvelle et l'ancienne équipe. Enfin, dans l'ancienne et la nouvelle équipe. Donc, il y a eu ces jeunes qui sont rentrés vêtus de noir, visage dissimulé. Alors je dis des jeunes, c'est peut-être des vieux, mais enfin a priori c'est des jeunes. Ils ont tout saccagé et certains disent mais c'est normal parce que l'actuel maire veut mettre des vidéosurveillance, plus de policiers municipaux armés, et que peut-être que certains dealers ou certains délinquants se sentent mal à l'aise désormais et donc voulaient manifester leur mécontentement face à ce changement de pouvoir.
Jean-Loup.
Non mais on n'est pas du tout dans une histoire gauche droite de transition qui se passe mal, c'est clairement une histoire de trafic de drogue. Voilà, c'est une histoire de cité, de délinquance et de narcotrafic où, vous savez, nos amis qui sont assis sur un transat devant le hall d'immeuble pour vendre leurs différents produits, eh bien, nos charmants amis envoient un petit message, une forme de carte postale à la nouvelle équipe municipale. Et ce message, c'est: laissez-nous faire du business tranquille. Ce que vous avez vu, on peut être méchant. Donc, pas trop de caméras, voilà. Regardez, messieurs, les politiques passent leur temps à ne pas tenir leurs promesses. Eh bien, vous aussi, ne tenez pas vos promesses de caméras supplémentaires, de policiers municipaux.
Alors, pour l'instant, on ne sait pas, parce que l'enquête pas déterminé qui était le responsable. Et l'élu d'opposition dit que c'est une théorie du complot, que le nouveau maire dit ça pour pouvoir justifier le fait qu'il va mettre des caméras supplémentaires.
Non, mais ceux qui font ça dans cet endroit-là, en région parisienne, ne peuvent être que des mecs du narcotrafic dans un endroit où il y a des cités. Enfin, c'est signé, c'est très clair. Florent, et d'ailleurs, le mois dernier, j'avais dit, le mois dernier, souvenez-vous de ce qui s'est passé au Mexique, il y avait le chef d'un cartel de la drogue qui avait été tué, et donc du coup, ses partisans avaient retourné et saccagé une partie du Mexique. Et j'ai dit, dans 10 ans, on verra des choses comme ça en France, d'une même ampleur. Eh bien, tu vois que ça commence, ça c'est les signaux faibles, les premiers signes annonciateurs, et tu vois bien que le narcotrafic perturbe la vie démocratique. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est très compliqué, ça devient très compliqué de faire des procès d'assises parce qu'il y a des menaces. Mm-hmm. Hein, tu le vois d'ailleurs là avec la DZ Mafia à Marseille. Il y a des menaces, et il y a des menaces y compris maintenant sur les jurés, sur leurs familles. Tu vois aussi que l'institution judiciaire fonctionne difficilement parce qu'il y a de la corruption. Il y a de la corruption de gardiens de prison, il y a de la corruption de greffiers. Et tu vois bien également qu'il y a une pression sur la vie politique démocratique locale.
Flora.
Deux choses.
Je suppose les gens de la prod d'avoir été payés par la DZ. Voilà, preuve.
Si jamais la piste narcotrafic se confirme, c'est pas le premier signal faible, puisque il y a un jeune homme marseillais qui s'appelle Amin Kessassi, dont le frère a été tué il y a quelques mois, parce que Amin est un militant anti-narcotrafic. Et c'est ce que j'allais dire. Et aujourd'hui, il est conseiller municipal à Marseille.
Avec un gilet pare-balles.
C'est ce que j'allais dire aussi. Merci Olivier. Il a
sur une
les
liste,
gardes du
ne
corps.
Va rien faire contre le narcotrafic.
Attends, mais qu'est-ce que t'en sais de ça? Pourquoi tu manques de respect?
C'est ce que t'as l'idée.
Il a des gardes du corps et un gilet pare-balles. Et c'est la seule façon dont il peut exercer son mandat, car il risque sa vie tous les jours. Et par ailleurs, dans les meetings de campagne, il venait, il prenait la parole et il était exfiltré parce que le risque sécuritaire était trop grand. Donc il vit déjà endeuillé de son frère qui avait 20 ans, comme si c'était pas suffisant, de ses deux frères. Mais en plus, il vit sous la menace, le risque, le danger, la contrainte permanente, alors que c'est lui-même un jeune homme engagé contre le narcotrafic. Si ce signal faible-là suffisait pas, j'espère que celui-là va faire réagir les autorités, parce que si les narcotrafiquants veulent commencer à nous livrer une guerre, ça va effectivement prendre des années, voire des décennies, et ça va pas s'arrêter là, ça va être très dangereux. Donc moi, je trouve que c'est très inquiétant. Malheureusement, je vois pas les réponses émerger dans la classe politique.
Ah, moi, j'ai des réponses à titre personnel, mais bon.
Charles.
Mais t'es pas dans la classe politique.
Disons à Fresnes, où il m'est arrivé de me rendre, c'est une bourgade assez sympathique. J'observe partout depuis ces municipales la racaillisation croissante d'un certain nombre de nos villes qui vivent désormais sous la menace et l'action nuisible de Kaira qui viennent intimider des maires sortants, qui viennent saccager une mairie, qui partout étendent leur territoire sous nos yeux ébahis. Donc ça n'est qu'une manifestation de plus de ce phénomène. Et je ne peux qu'encourager la mairie de Fresnes à être d'autant plus sécuritaire, à installer d'autant plus de caméras, à recruter d'autant plus de policiers municipaux, à les armer d'autant plus jusqu'aux dents pour lutter contre cette racaille. Mais le problème, à mon sens, est plus vaste. Moi, je pense qu'il faut inverser les choses en matière pénale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principe en matière pénale, c'est une certaine progressivité des sanctions selon que vous en êtes à votre première fois, deuxième fois, troisième fois, selon que c'est plus ou moins grave.
127e fois.
Et je crains qu'on soit arrivé à un tel niveau d'insécurité en France, dans tous les sens du terme, y compris trafic de drogue, etc., qu'à mon sens, il faut inverser les choses, c'est-à-dire, je pense qu'il faut une sanction très dure dès la première incartade.
Ça sera intéressant de suivre d'ailleurs l'enquête, si on va interpeller ceux qui ont fait ça, et puis le suivi judiciaire derrière.
Est-ce à quoi ils vont être condamnés?
Tu vas voir que ça va être lent et mou.
C'est Olivier Olivier est à Thiers dans le Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Vous vouliez en parler avec nous parce que vous connaissiez bien la ville de Fresnes.
Oui, j'ai habité 23 ans, j'ai encore ma maman, j'y vote chaque élection depuis que j'ai joué comme trois pommes. C'est une ville dont j'ai vu l'évolution à la fois démographique.
Ouais.
J'ai vu des municipalités, c'est comme un record, 90 ans de gauche qui ont été renversées sans partage depuis 1935. On se pose la question, quand est-ce que ça basculerait c'est comme une lente agonie parce que la gauche a fait beaucoup de dégâts à Fresnes. Je reprends quand même être consigné sur une chose. C'est une belle endormie Fresnes, faut être honnête. Rien n'a été fait pour le développement économique. Surtout la loi SRU a été pétée, explosée depuis longtemps. Et le problème de Fresnes, c'est que les municipalités antérieures ont fait venir des populations qui étaient déjà rejetées du 93. J'ai même des amis d'origine étrangère qui m'ont dit, je vous dis textuellement, des amis d'enfance avec qui j'ai été à l'école là-bas, ils m'ont dit, dans certains quartiers, il y a trop de Noirs. Ils nous disent textuellement.
Ça, moi, je le dirais, la couleur de peau n'a rien à voir. Je ne comprends pas le raisonnement de vos amis. Ça n'a rien à voir.
Ça dérogate. Mais grosso modo, on a importé des gens qui ne s'intègrent pas dans le paysage. Et surtout, il y a certes un trafic de drogue. Fresnes n'est pas la ville la plus criminogène du Val-de-Marne. Mais il y a une gestion de la sécurité qui laisse à désirer. Il y a eu aussi la précédente maire qui a refusé de manière républicaine de recevoir l'ancien maire de Lyon qui était ministre de l'Intérieur. Pour des questions sur les réfugiés. Et Fresnes, c'est toute une accumulation de petites choses. Bon.
Oui, mais là, pardon Olivier, je vous coupe, excusez-moi, on vous laisse dérouler. Moi, je suis désolé, je ne peux pas cautionner ce que vous venez de dire, même si ce sont vos amis qui ont dit ça. Donc, un, pas de propos racistes sur l'antenne, s'il vous plaît. Deux, on n'en sait rien précisément de qui il s'agit. Ça semble être plutôt des délinquants, parce que quand on s'en prend comme ça, tout saccagé, ça sent quand même le coup monté, le commando préparé.
Le trafic de drogue.
Et lié sans doute, effectivement, au basculement politique de la ville, parce que malheureusement, aujourd'hui, on a du mal avec l'alternance démocratique et il y a certains qui ne supportent pas peut-être qu'un bastion bascule alors que ça fait... Mais bon, n'allons pas jusqu'à tenir des propos complètement déplacés.
Non, mais surtout, quel est le lien entre... Les propos étaient incohérents et j'ai vraiment pas compris le lien entre il y a trop de Noirs à Fresnes et...
Avec l'immigration, c'est insupportable.
Ça s'appelle du racisme, du coup.
Olivier dit qu'il y a un lien avec l'immigration et qu'on a concentré des populations et que malheureusement, ça a conduit...
Il est sur la couleur de peau, etc.
Bah, c'est ce que je lui ai dit. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, quoi qu'en disent vos amis.
Ça s'appelle du racisme, c'est interdit par la loi.
Non, mais ce qu'on voit sur les caméras de vidéosurveillance, en revanche...
Là, on ne voit rien. Ils sont tous cagoulés en survêtement.
Oui, d'accord. A priori, ce n'est pas des vieilles dames avec des brushings récents, si tu veux, qui viennent faire ça. Non. C'est les habituels Kaira. Je parle là sans lien avec ce que vient de dire notre auditeur. Ce qu'on voit, c'est que c'est le profil classique des racailles que l'on retrouve dans environ 90% des faits de délinquance et de criminalité en France, et que donc, à mon avis, le sujet, c'est comment on déracaïse notre jeunesse. C'est ça, aujourd'hui, le sujet en France. Comment est-ce qu'on fait pour ne plus avoir des villes entières où vous avez une très grande partie de la jeunesse qui sombre dans la délinquance et la criminalité. Et ça je trouve que c'est un problème très aigu en France.
Mais Jean-Louis, si c'est confirmé que ce sont bien des dealers, parce que là, encore une fois, on n'en sait rien, il faut être très prudent, c'est une des pistes envisagées. Des dealers qui voudraient effectivement mettre la pression. C'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que si désormais on met la pression aussi sur des maires parce qu'ils ont simplement envie de mettre une police municipale armée.
On a Muriel qui habite à Fresnes. Bonjour Muriel.
Bonjour les GG.
Bonjour Muriel.
Je suis contente de vous entendre.
C'est la délinquance, peut être lié au trafic de drogue selon vous ou pas?
Juste un petit truc à dire. Je fais un grand, mon chouchou Charles.
C'est gentil Muriel.
Vous êtes vraiment génial.
Merci beaucoup.
Alors moi, je veux pas vous énerver, mais je suis pas contre les propos du précédent auditeur, parce que j'ai pas tout entendu. Alors j'ai entendu la fin. Alors effectivement, moi je suis à Fresnes depuis 30 ans. Donc j'ai connu mes enfants. J'ai un fils de 38 ans, un autre de 33 ans, qui ont été au collège à Fresnes. Un a été au collège à Fresnes. Après, bon, ils étaient dans le privé. Voilà. Et effectivement, 50 ans de gauchisme, enfin de gauche, c'était un petit peu lourd. Et moi, je vis en bas de Fresnes. Et le bas de Fresnes, si vous voulez, c'est une résidence pavillonnaire où je suis limite, ma rue en face, c'est Anthony. Donc nous, on est privilégiés. On est vraiment très privilégiés par rapport en haut de Fresnes.
Le trafic de drogue s'est installé. Vous croyez que ça peut être ça ou pas?
Non. Je ne crois pas du tout au trafic de drogue. Je sais que dans le Var, le maire avait annoncé qu'il allait mettre des caméras. Ouais, il n'y a pas de problème.
Ouais, renforcer les caméras et la police municipale. Ouais.
Voilà. De plus, il faut savoir que moi, la mairie municipale, la police municipale, parce que moi, j'ai été attaquée chez moi il y a 2 ans. Ils sont carrément rentrés parce que mon mari était parti à la campagne avec les bulldogs. Et je me suis pas méfiée. Et ils sont carrément venus me voir dormir à l'étage inférieur. Donc, c'est vrai. Donc, c'est pas, et c'était pas des racailles. Enfin, mais je suis d'accord avec Charles, comme d'habitude.
Et ça peut être qui cette bande? Parce qu'on les, vous avez vu les images, oui, les images vidéo, vous voyez, ils arrivent à une quinzaine, ils saccagent l'intérieur de la mairie, l'entrée de la mairie.
Ça n'est jamais arrivé à Fresnes. Ce genre de choses n'est jamais arrivé. Par contre, effectivement, on a quelques petits commerçants, parce que moi, je suis mes petits commerçants, les petits commerçants sont souvent attaqués. On a un Carrefour Market qui est, donc ils sont, il y a un vigile.
Donc il y a une délinquance.
Non, pas chez nous, il y en a pas. Enfin, il y a la cerisette qui est énorme.
Mais là, pardon, mais ça ressemble à un commando. Excusez-moi, je comprends pas ce que Muriel. Ça ressemble quand même à un commando bien organisé. Ils sont tous vêtus de noir, cagoulés. Ils s'en prennent précisément à la mairie. Enfin, c'est pas, on est dans quelque chose qui est préparé.
D'après mes fils, qui avaient même des copains, comme le monsieur d'avant, pas spécialement des gens de Fresnes non plus, parce que, comme peut-être il me pas. Dit, les gens de Fresnes, si vous voulez, c'est pas ça qui les intéresse. Il n'y a pas vraiment de grandes cités à Fresnes. Il n'y en a pas. Nous, on n'a pas ça. Par contre, ce que vous avez, effectivement, oui, je suis assez d'accord avec l'auditeur précédent. C'est vrai qu'on a eu une montée de personnes. Bon, mais moi, je ne peux pas parler comme lui, parce que de toute façon.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'immigration ou quoi que ce soit.
La question est de savoir si pourquoi il y a une bande organisée qui rentre dans le hall de cette mairie, dans le rez-de-chaussée, et qui va pour saccager, même pas voler. On voit d'ailleurs, les ordinateurs, ils les prennent pas.
Ils viennent pour envoyer un signal.
Donc ils envoient quelque chose, un signal, c'est un commando. Donc voilà.
Tout simplement, on s'y attendait avant, hein, pour vous dire, on s'y attendait plutôt.
Donc c'est lié, pour vous, c'est lié au changement municipal.
Oui, parce que si on avait vécu ça ailleurs. Moi, je connais M. Vincent Gendrin, là, il est rose. Oui.
Ministre de la ville aujourd'hui.
Il a réagi d'ailleurs.
Voilà, tout à fait. Mais bon, je ne peux pas parler de ma vie d'avant. Mais voilà, donc je connaissais beaucoup de gens. Et mon beau-père habitait la Guérose aussi. Donc, si vous voulez, ce qui lui est arrivé.
Pareil, lui,
à mon avis,
fait,
c'est les mêmes personnes que les personnes qui sont venues à Fresnes.
Donc, on envoie des messages d'intimidation, de pression.
Est-ce qu'on les retrouvera?
On envoie une carte postale.
Parce qu'ils sont tous cagoulés, masqués. Apparemment, ils sont gantés aussi. Donc, ça va être compliqué de les retrouver. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a dit que ça s'inscrivait dans un climat, comment il a appelé ça, pré-révolutionnaire, les incidents qu'il y a pu y avoir dans les transitions.
Pas sûr qu'ils veulent faire la révolution.
Ça n'a aucun rapport.
Pré-sécessionnaire.
Oui. Faut pas mélanger les gilets jaunes et les racailles. Non. C'est pas du tout le même.
On va voir leur business.
À suivre, puisqu'il y a
c'est
une enquête.
Des capitalistes. Hein.
Une enquête qui a été ouverte si le maire tient bon avec ses caméras et son renfort de la police municipale. Dans un instant, mais justement, merci à Muriel d'avoir été avec nous. Dans un instant, la politique et Édouard Philippe est-il le futur champion de la droite et du centre? Visiblement, il est donné gagnant par tous les sondages. On en parle avec Florent Guébali, Charles Consigny et avec Jean-Loup Bonamy.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules. RMC,
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules, c'est avec vous, bien évidemment, c'est au 32-16 que ça se passe, avec Charles Consigny, Florent Guébali, avec Jean-Loup Bonamy, notamment pour parler politique et de l'avance que semble prendre Édouard Philippe. C'est une étude là, au mois de mars 2026, ça ne présage rien de ce que va être 2027, mais quand même, on a dû accueillir ça avec satisfaction au Havre. Édouard Philippe, fraîchement réélu maire du Havre, qui se trouve là, selon un sondage Elabe pour BFMT, pour la Tribune dimanche, qui se trouve être en tête très bien placé dans tous les cas de figure pour 2027.
Oui, c'est vrai que le mois de mars est un bon mois pour Édouard Philippe. Denez battu dans un sondage au Havre. Finalement, il l'a emporté face au candidat communiste et RN. Et en envoyant d'ailleurs un message subliminal, vous voyez, moi je bats les communistes soutenus par la France Insoumise et je bats le RN.
Je bats les extrêmes.
Je suis celui qui va sauver le bloc central. Et d'ailleurs, depuis, il y a quand même une pensée dominante qui s'installe dans les médias. Il faut un seul candidat à droite et au centre, et ça ne peut être que Édouard Philippe, le seul capable de battre Jordan Bardella, parce que selon le sondage Elab, dans tous les cas de figure, c'est le seul qui peut empêcher Jordan Bardella d'entrer à l'Élysée. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, aujourd'hui, Édouard Philippe? Et est-ce que c'est une bonne stratégie d'être dans une stratégie un peu de l'épouvantail? C'est-à-dire, il y a deux épouvantails. Il y a Mélenchon et Bardella, et pour éviter les deux au second tour, il n'y en a qu'un, c'est Édouard Philippe.
Charles?
Ah, c'est amusant comme tous ces gens se créent des faux adversaires. Je suis désolé, mais un candidat communiste aux dernières nouvelles, c'est quand même pas non plus le candidat le plus difficile à battre. De même que Jordan Bardella, qui a 12 ans et demi, je suis désolé, il a beau être à la mode et pas sans talent.
Ah, c'est quand même le favori.
Là, dans un an, je suis désolé, c'est pas le plus difficile à battre. C'est commode hein, d'organiser les choses pour avoir finalement face à soi Staline ou Titeuf, si tu veux. Donc moi cette
Titeuf, c'est
Jordan. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un enfant, quoi. Donc forcément, non, oui, forcément.
Et Staline, c'est Mélenchon.
Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont eux qui organisent ces caricatures de manière à se ménager des espèces de faux suspense. Enfin, je veux dire.
Là, donc il est déjà élu, Édouard Philippe, à t'écouter.
En tout cas, si les choses vont à ce train-là, avec tout le système qui se met en marche, etc., l'élection, elle est écrite d'avance. Il fait un premier tour, un peu au centre, un peu quand même à droite, pour essayer d'étouffer un peu la droite, etc. Mais enfin, quand même pas trop à droite pour ménager le second tour. Bon an, mal an, il se hisse jusqu'au second tour. Là, oulala, c'est attention, les nazis sont à nos portes, on entend le bruit des bottes, et puis il gagne, et il fait un grand discours de rassemblement le soir du second tour, et puis Agnès Pannier-Runacher reste ministre, si tu veux. C'est ça qui... Voilà, donc moi, je suis désolé, moi j'avoue que cette perspective...
C'est un cauchemar.
Disons que j'étudierais l'option... Polynésie, Mexique, Los Angeles. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me passionne pas. Voilà, j'ai besoin quand même qu'il se passe quelque chose. Ça ne me passionne pas. Et puis il y a un autre sujet. Je fais pas trop long pour ne pas me prendre le coup de klaxon. C'est quand même le projet. Je veux dire, quand Madame Pannier-Runacher dit mes bornes vont, je la prends comme exemple parce que je trouve qu'elle incarne bien ce macronisme attrape tout. Mes bornes vont de Xavier Bertrand à Raphaël Glucksmann. D'accord, mais donc quel est ton projet? Est-ce que tu veux baisser les impôts ou augmenter les impôts? Est-ce que tu veux augmenter le temps de travail ou baisser le temps de travail? Est-ce que tu veux augmenter le nombre de fonctionnaires ou réduire le nombre de fonctionnaires? Quel est ton projet? Si ton projet, c'est juste de sauver les sortants, je suis désolé, pour moi, ça fait pas un projet pour une présidentielle vu l'état de notre pays.
Laura?
Je suis pas sûre que... un sondage un an avant est déjà donné dans l'histoire des présidentielles le résultat. D'ailleurs, je vous demande, vous avez plus d'expérience.
En 2022, à mon avis, oui.
Mais c'était un sortant. Mais je suis pas sûre qu'un an avant... En général, ce qu'on prédit un an avant, c'est l'inverse de ce qui va se passer. Donc voilà. Après, je trouve ça triste et regrettable que entre les deux extrêmes, donc Mélenchon et Bardella ou Marine Le Pen, on ait trouvé que une personne qui serait censée rassembler tout le monde entre les deux extrêmes. Je rejoins Charles sur le fait qu'il y a plein de familles politiques différentes. Quel rôle on veut donner à l'État? Quel rôle on veut donner à la réindustrialisation? Qu'est-ce qu'on veut faire pour l'agriculture? Moi, je préférerais qu'on soit en train de parler de ça plutôt qu'on soit en train de se dire qui repousse qui récupère qui. Et ça, je trouve que c'est le jeu des partis politiques qui font ça. Et je préférerais qu'on soit en train de parler d'idées. Voilà. Je suis un peu inquiète de cette présidentielle, pour tout vous dire, parce que ok, en 2022, on s'est fait un peu voler la présidentielle parce qu'il y avait un président sortant, Emmanuel Macron, et que on était en pleine guerre en Ukraine. Il est repassé comme ça, sans qu'on refasse le débat. Pour moi, c'est un temps essentiel pour les Français, tous les 5 ans, de débattre, de se demander qui on est, qu'est-ce qu'on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et j'espère qu'on va réussir à le faire. Elle est très très importante, cette présidentielle.
Jean-Loup Bonamy.
Moi, je n'ai aucun doute sur une victoire d'Edouard Philippe s'il était face à Jordan Bardella ou même à Marine Le Pen au second tour. Alors je ne dis pas que je m'en réjouis, mais pour moi c'est évident qu'il gagne pour plein de raisons. Déjà pour des raisons mathématiques, arithmétiques. Tu vois, c'est comme en boxe, celui qui occupe le centre du ring a un avantage. Et ben c'est pareil, il occupe le centre du ring. Donc en cas de second tour, Bardella, il aura fait son plein de voix au premier tour, il n'aura pas de réserve de voix, alors que Édouard Philippe, qui occupe la position centrale, il aura des réserves de voix et il aura un report des voix de gauche qui, pour faire barrage justement à l'extrême droite, hein, la stratégie du castor, eh ben iront voter pour Édouard Philippe.
Oui, mais...
Donc il y a ça. Également, il y a Charles l'a dit, la jeunesse et l'inexpérience de Bardella. Tu vois bien que dans la France, où ce sont les retraités qui font les élections, dans un pays de vieux, eh ben ils vont préférer Édouard Philippe, qui a été maire d'une grande ville, qui a été Premier ministre, pour qu'il ait les clés du camion de la 6e puissance mondiale et le bouton atomique, plutôt qu'à Jordan Bardella, ou 7e puissance, oui, bientôt 35e, plutôt qu'à Jordan Bardella, qui n'a jamais travaillé et qui, en effet, à quel âge?
Oui, mais Jean-Loup, pardon, voilà. Non, mais les Français déjouent à chaque fois les pronostics, pardon.
Non, oui,
ça
mais
me fait penser au référendum sur l'Europe,
non, mais...
où on nous a martelé que le oui allait passer parce que la pensée dominante disait c'est le oui qui doit passer.
La pensée dominante dans les médias.
On peut pas faire trop. Dans les médias politiques, Nicolas Sarkozy, oui, François Hollande, main dans la main.
Le système politico-médiatique.
Nicolas Sarkozy, François Hollande, la gauche à droite, faisait main dans la main, faisait campagne pour le oui.
Parce que c'était un référendum et que ce référendum n'avait pas véritablement de conséquences graves. Oui, mais là, c'est à qui tu confies les clés?
Bardella,
chers amis, il est minoritaire dans la société française.
Moi, je serais la droite et la gauche, j'enverrais quand même un candidat. Parce que je trouve que cette espèce de pression qu'on nous met à chaque fois, ce chantage aux extrêmes, c'est juste insupportable. Il y a un moment donné,
moi, c'est le macronisme.
Je suis désolé, Xavier Bertrand
pour Milan
et Raphaël Glucksmann ne portent pas le même projet de société.
Ils devraient y aller tous les deux.
Et donc, non, mais je dis pas parce
que Bruno Retailleau, c'est pas Edouard Philippe
ou autre candidat de droite ou autre candidat de gauche. Mais en tout cas, ça n'est pas le même projet de société. Moi, je suis désolé, je n'ai pas le même projet de société que Madame Pannier-Runacher, qui n'a pas de projet de société. Et c'est quand même ça le problème avec ce bloc central, c'est qu'ils n'ont pas d'idée, ils sont prêts à tout accepter. Leur seul sujet, c'est comment fait-on pour être reconduit. Je suis désolé,
garder les places.
On voit au bout de 10 ans où ça a mené notre pays, je pense qu'il faut maintenant du changement.
Ils devraient y aller tous les deux pour la simple raison, et ils devraient tous y aller, tous ceux qui aspirent à proposer un projet aux Français, pour la simple raison que c'est à nous les électeurs de décider.
Bah oui.
Et là, on vit dans un monde, une période d'accord politique, où on arrive à l'élection, tout est déjà joué d'avance.
Ça sent la combine.
Parce qu'on nous explique que les partis ont fusionné, se sont accordés sur, lui il préfère faire le roi, donc il s'est mis là, elle s'est mis là. C'est pénible. Moi, ce que je veux voir, c'est des programmes, des incarnants de ces programmes, et je vais décider ça c'est plus ma tasse de thé, ça c'est moins ma tasse de thé, je vais voter pour celui-là ou celle-ci. Et ce qui est insupportable, c'est qu'aujourd'hui, à chaque élection, on nous prive de ce choix de voter sincèrement pour ce en quoi on croit. Moi, j'aimerais qu'il y ait 20 candidats au premier tour.
Tu les auras. Mais là, c'est parce qu'il y a deux grands méchants aujourd'hui, en fait. D'ailleurs, regardez, Jean-Luc Mélenchon a tweeté durant le week-end, il a écrit quelques lignes sur le réseau social pour faire part de son courroux, de sa colère, en disant, voilà, je suis pulvérisé, bien évidemment, par Édouard Philippe dans tous les cas de figure, encore plus par Jordan Bardella. Inépuisable comédie, écrit Jean-Luc Mélenchon, les médias, les sondages manipulent, mentent, alimentent un racisme à vomir et prennent continuellement notre peuple pour un bétail sans mémoire ni pensée. Vivement 2027. De tous, LFI libérera
pas mal comme tweet.
Le
que,
pays.
Franchement, c'est bien écrit.
Ouais, mais est-ce que vous voyez la violence de ce tweet?
C'est ce que je te dis.
Il y a de la violence dans chaque mot, dans chaque ligne.
Eh ben, c'est très
pour
bien,
moi,
c'est ça dont on a
pour
besoin.
Pour moi, mettons que le casier de Jean-Luc Mélenchon soit complètement, le casier médiatique complètement vierge, rien que ce tweet, pour moi, ça suffit.
Ludovic, bonjour. Bonjour Ludovic. Bonjour, qu'est-ce que vous en dites, Ludovic? Alors, Édouard Philippe gagnant ou pas?
Déjà, je ne pense pas. Déjà, peut-être que les Français ont oublié, mais Édouard Philippe, c'était bien le Premier ministre quand il y a eu les Gilets jaunes, il me semble. Et donc, on a vu ce qu'ils ont fait du mouvement. C'est lui aussi qui a géré le début de la crise du Covid. Et donc, je pense que la mémoire sera rafraîchie peut-être au bon moment. Et puis, je pense que les sondages, en général, on se trompe toujours. Je rejoins ce que disait Olivier tout à l'heure. Et souvenons-nous de Lionel Jospin décédé il y a peu, en 2002. Personne n'y croyait qu'il ne serait pas au second tour.
Bien sûr. Donc là, souvenez-vous d'Alain Juppé. On nous a vendu Juppé pendant 2 ans comme grand favori de la présidentielle. Finalement, il a perdu à la primaire de la droite, Alain Juppé.
Exactement. Même si ces derniers temps pour les présidentielles, en général les sondages sont plutôt bons, mais je pense qu'on en risque d'avoir quand même une grosse surprise.
C'est-à-dire que c'est le favori qu'on supporte quelqu'un de trop favori.
En fait, Ludovic, c'est ce que je disais. Ouais. On a déjà désigné les deux grands méchants, c'est-à-dire c'est tout sauf le RN ou tout sauf LFI,
ça fait
sauf Bardella ou tout sauf Mélenchon.
Après, chers amis, on peut quand même
de les retrouver. Je pense qu'on aura la grosse surprise que l'on a et le gros risque qui est pris ces derniers temps, c'est qu'on aura ce scénario-là. Et d'ailleurs, LFI et RN en jouent tous les deux, ils font tout pour être tous les deux au second tour.
Bien sûr.
Et moi, je ne crois absolument pas à la fin de LFI. Le PS est complètement aux fraises. Les Républicains, alors eux, n'en parlons pas là. Donc, s'il n'y a pas d'union aussi bien d'une certaine gauche républicaine et d'une droite républicaine, on aura les deux extrêmes.
Oui, mais l'union, elle ne peut pas se faire sur simplement le rejet de l'adversaire. C'est pour ça que je parlais de la stratégie de l'épouvantail. Moi, je pense que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'Édouard Philippe ne peut pas se présenter devant les Français en disant, écoutez, je suis votre rempart aux extrêmes. Il faut qu'Édouard Philippe nous dise précisément ce qu'il veut faire. Et je trouve que pour l'instant, c'est quand même très ambigu. Alors, il lui avait promis qu'il allait renverser la table.
Il dit qu'il ne veut pas qu'on lui pique ses idées.
Oui, voilà, mais bon. Donc, il va falloir qu'ils nous disent précisément ce qu'il veut faire, et c'est après effectivement que les Français pourront se prononcer.
Merci à vous Ludovic d'avoir été avec nous. Ludovic qui nous appelait du Var. Merci Ludovic.
Bonne journée.
À bientôt. Édouard Philippe qui bat Jordan Bardella, le grand favori. Est-ce que vous y croyez? On a posé la question sur les réseaux sociaux là juste. Avant l'émission, après la consultation, elle court tout au long de la journée. Vous dites non à 81%.
Eh ben, vous avez tort.
Dans un instant, la compte sur salaire, bientôt facilitée. Qu'est-ce que ça dit de notre pays? Bientôt jusqu'à 5 versements par mois accessibles aux fonctionnaires. La compte sur salaire, est-ce que ça dit surtout qu'on a une France qui a vraiment beaucoup de mal à boucler ses fins de mois? C'est au 32-16 que ça se passe, il est 11h-20.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG vous donnent la parole au 32-16 là pour parler justement de votre salaire. Là, on est sur la fin de mois, on est le 30 mars. Normalement, les salaires ont été versés, mais on a une proposition de loi socialiste qui vise à ce qu'on puisse avoir des acomptes sur salaire plus facilement. Cinq versements par mois accessibles aux fonctionnaires, voilà ce que propose cette PPL socialiste.
Oui, c'est assez curieux. Les employés pourraient donc recevoir jusqu'à 5 fois leur salaire dans le mois. Donc complètement fractionné. Donc en fait, une partie du salaire par semaine. Alors, c'est étonnant parce qu'on n'est pas dans un pays où on paye les choses à la semaine. Aux États-Unis, effectivement, ou en Angleterre, on paye son loyer à la semaine. Donc c'est compréhensible, à la limite, de gagner à la semaine son salaire. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant? C'est curieux comme proposition socialiste. Est-ce que c'est pas simplement le signe qu'en France les gens sont mal payés, qu'ils s'en sortent pas, que très vite, dès le 10 du mois, ils sont dans le rouge parce qu'une fois que toutes les factures sont tombées, le loyer, etc., il reste plus rien. Est-ce que c'est pas ça le vrai problème?
32-16 pour le dire au GG, Florent.
Moi, je pense que c'est une bonne proposition qui permet aux gens d'échelonner leur paiement, leur trésorerie, et notamment aussi à s'auto-encadrer. Ça permet de s'auto-encadrer pour pas avoir plus d'argent le 10 du mois et essayer de se dire je garde chaque semaine une partie de mon salaire pour tenir jusqu'au bout. Donc je pense qu'elle est étudiée sur notamment les personnes qui ont pas de quoi faire leurs courses jusqu'à la fin du mois et que pour ces personnes-là c'est utile.
Jean-Loup?
Moi je pense que ce n'est pas une bonne proposition. Alors en effet ça peut aider, mais ça ne règle absolument pas le problème de fond. Voilà, c'est la politique des expédients.
Oui, mais ça peut aider.
Non, mais c'est la politique des expédients. C'est vraiment la politique à petite semaine. Et donc, le vrai problème, c'est qu'en France, les salaires sont trop bas et que le travail ne paye pas. C'est ça le nœud du problème. Et donc, il faut que le travail paye davantage. Il faut, c'était le titre d'un livre qui est sorti récemment, Sortir du travail qui ne paye pas. C'est une spécificité française. Et donc, les Français doivent être mieux payés. Mais pour ça, il faut un, travailler plus, et deux, il faut également baisser les charges sur le travail. Voilà, il y a trop de charges sur le travail, et donc évidemment.
Mais toi, en tant que prof, tu pourrais utiliser ce système et demander à être payé.
Je préférerais ne pas l'utiliser parce que je trouve que ce n'est pas un système très sain. Voilà, je préférerais. Évidemment, pour les gens qui sont contraints, je comprends tout à fait. Mais tu vois, pour les gens qui sont contraints, je préférerais qu'ils soient mieux payés, en fait. Je préférerais qu'il y ait moins de charges.
Mais là, c'est qu'ils vont payer pour ça à chaque mois.
Moins de salaire, qu'il y ait moins de charges. Par exemple, avec d'autres systèmes de financement comme la TVA sociale.
Carrément, tu dis voler moins de salaire.
Ah, bah, moi, je pense qu'il y a une partie qui est volée, oui.
Ah, ouais, c'est du vol. Qu'est-ce qui est du vol?
Bien sûr que c'est du vol.
Bah, oui, c'est du vol. Bah, c'est-à-dire que tu payes tout un tas de charges qui font que t'arrives pas à finir tes fins de mois. Et quand tu vas à l'hôpital, t'en as pas pour ton argent. Donc, c'est
ce que la
vol.
Gauche appelle pourtant le salaire différé.
Ah bah oui, il est tellement différé.
Tu le retrouves dans tes dépenses sociales où tu payes moins.
Moi, j'ai envie de dire, il est tellement différé qu'on ne le retrouve nulle part. Tu vois, on se demande bien où il est. Ah, enfin, ou alors plus exactement, il est dans les 36 adjoints au maire là de la mairie de Paris. Bon, donc ça, c'est un peu du vol quand même. Donc, pour moi, le nœud du problème, il est là. Donc, travailler plus, moins de charges sociales, gagner plus.
Charles.
Je suis d'accord avec ce que dit Jean-Loup. Il faut pas se voiler la face. Si une proposition comme ça émerge, c'est parce que les gens galèrent à vivre avec le salaire qu'on leur donne. Et c'est pas parce qu'ils auront un acompte sur salaire au cours du mois que ça réglera le problème, puisque ça ne fera que reporter le problème. Enfin bon, c'est quasiment une forme de crédit, quoi. Donc la réalité, c'est qu'effectivement les Français ne sont pas suffisamment payés et que effectivement l'État les vole, comme le dit très justement Jean-Loup. Moi, je pense que cette histoire de salaire différé, etc., est évidemment un truc bidon.
C'est du pipeau.
Bidon inventé par la gauche pour essayer de faire croire qu'effectivement on a raison de payer. Tout ce qu'on paye, mais
c'est ce que tu avais répondu Jean-Luc Mélenchon quand tu lui avais sorti la diatribe Nicolas qui paye. Tu sais,
oui,
il t'avait dit
salaire différé.
Nicolas, c'est du salaire différé. Mais d'ailleurs, à Cuba aussi,
c'est du salaire différé.
Moi, après, beaucoup de Français profitent de ce système.
Oui, parce que.
Sur la redistribution. Il y a 60% des Français qui en profitent, il y en a 40% qui n'en profitent pas, qui payent.
Cette mesure, comme beaucoup d'autres, c'est un petit pansement, alors que il y a une hémorragie. Et pour aller dans le sens de ce que vous disiez tous les deux, toi t'as cité le livre d'Antoine Fouché, Sortir du travail qui ne paye plus. La réponse d'Antoine Fouché à cette crise du travail, c'est de réindustrialiser massivement notre pays.
Je suis bien d'accord.
Donc qu'on parle de l'essence que les Français n'ont plus le temps de payer, n'ont plus les moyens de payer, les fins de mois qui sont difficiles, quel que soit le sujet dont on parle, il y a une réponse globale qui est de réindustrialiser notre pays. Et en fait, tant que nos politiques font des mesurettes, je dis pas que cette mesurette est inutile. Non, je suis pour la retraite à point et surtout je suis pour la flexibilité du mode de retraite et du mode de travail en fonction des gens qui ont un travail pénible et des gens qui n'en ont pas, comme d'ailleurs Antoine Fouché qui écrit ce livre. J'aimerais juste qu'on ait un débat qui aille au bout. Il y a un truc qui est pénible, c'est que quel que soit le sujet dont on parle, il y a des mesures de fond dont on devrait parler. Et en fait, on venait de parler d'Edouard Philippe à l'instant qui est candidat. Moi, j'aimerais l'entendre sur ces sujets de fond. Tous les candidats à la présidentielle, ils doivent nous rendre une copie sur ces sujets de fond de comment on va transformer le pays durablement. Et personne le fait, et c'est insupportable.
Oui, on a qu'à faire tous les 5 ans la même présidentielle. Comme ça, on sera
On n'a jamais fait cette présidentielle. On prend les mêmes candidats que d'habitude, on leur demande la même chose que d'habitude, et ils feront la même chose que d'habitude.
On a un exemple concret, celui de Sylvain qui nous appelle de Gironde. Bonjour Sylvain.
Bonjour Rémi.
Bienvenue, vous êtes moniteur d'auto-école. Est-ce que vous avez besoin d'acompte ou pas, vous, d'acompte de salaire si vous êtes salarié? Dites-moi, comment ça se passe?
Moi, je ne suis pas salarié, je suis indépendant.
Oui.
Donc, je suis payé à la semaine.
D'accord.
Et en fait, moi, je trouve que c'est bien parce qu'en fait, je me gère un petit peu mes dépenses parce qu'il y a quand même beaucoup de dépenses qui tombent dans le mois, tout ce qui est assurance, mutuelle, carburant, Donc, bon, j'arrive à me gérer comme ça, et je sais que mes charges, je les mets de côté pour qu'à chaque fin de mois, au début du mois, je puisse les payer à l'URSSAF, et comme ça, même après, je n'avais rien, je suis tranquille, quoi.
D'accord.
Et c'est même, vous avez un loyer à payer ?
Non, pas du tout.
Ah, bah d'accord, parce que quand même.
Le loyer de la voiture que je paye, mais après, j'ai pas de loyer, vu que je suis indépendant, mon seul bureau, c'est ma voiture, en fait.
Non, mais un loyer, mais... non, mais vous avez votre logement.
Ah, bien sûr, ça, après, ça rentre dans le cadre
personnel. Parce que quand même, les plus grosses factures arrivent toujours en début de mois.
Oui, oui.
Donc, il faut quand même provisionner, c'est ça que je veux dire.
Parce que le 15, j'ai l'assurance aux voitures, j'ai la mutuelle, enfin, c'est.
Ouais, le 15.
Ouais, le 15.
Mais vous arrivez à provisionner, à pas vous faire avoir avec ce système?
Non, j'arrive à bien me gérer parce que je sais combien je vais toucher de semaine à semaine par rapport aux heures que je travaille. Donc j'arrive à savoir à peu près combien je touche.
Alors
donc,
peut-être qu'il faudrait arriver à un système plus général où on n'est plus payé pas mensuellement, mais
après on peut laisser les
semaines. Voilà, justement, c'est une bonne mesure pour ça.
Nous, c'est comme ça que ça travaille. Après, je sais que je vais travailler aussi avec une auto-école en partenariat avec elle. Elle, par contre, elle va me payer au mois, elle ne va pas me payer à la semaine. Donc,
d'accord.
Mais bon, ça, c'est un choix.
Vous avez les deux systèmes, quoi, en fait.
Ouais,
c'est
tout
ça.
À fait, exactement. Mais le système de payer à la semaine, alors c'est pas vraiment un acompte, puisque l'acompte, c'est plutôt pour les salariés par rapport au patron. Mais moi, je sais que pas les payer à la semaine, j'arrive à bien me gérer mes dépenses.
Merci Sylvain, merci d'avoir été avec
nous.
Merci, on va écouter l'exemple de Julien. Julien, il est agent de sécurité, donc j'imagine salarié. Bonjour Julien.
Bonjour les GG.
Bon, vous avez touché votre salaire là ou
pas du tout, c'est ce que je disais tout à l'heure hors antenne. Donc en fait, nous on touche la paye entre le 28 et le 30. Donc le 28, c'est tombé un samedi, malheureusement. Donc apparemment, ma société n'a pas payé avant, ou alors c'est la banque qui n'a pas pris en compte. Donc aujourd'hui, on est lundi. Dans la France de Macron, à 2,40€ le litre, je ne peux pas faire les ventes. Donc ça veut dire que ce soir, vu que je n'ai pas touché ma paye, ce soir, je ne peux pas aller travailler. Donc je fais une vacation, je travaille de nuit, je suis agent de sécurité. D'accord. Je n'ai pas de cigarette, ça je sais que vous allez dire oui, mais une vacation de 12 heures sans cigarette, mon téléphone n'est pas passé non plus. Donc pas d'essence, pas de cigarette. Et même pas d'argent. Parce que
c'est là vous êtes, Julien, parce que vous êtes à découvert là.
Mais non, j'ai même plus redécouvert parce que je suis passé en Banque de France. Parce que dans la France de Macron, on nous tue. Si vous voulez, en 2000, enfin, quand il y a des événements sportifs, des agents de sécurité, on nous rameute. Venez les gars, il y a des sous à faire. Sauf que nous, ce qu'on n'avait pas compris, c'est que on paye pas les impôts sur l'année même, on les paye un an après. Donc un an après, quand on fait plus d'heures sup, quand on touche un salaire de 1 400€ et que nos chers amis des impôts nous demandent 1 500€ d'impôts, on fait comment pour payer? Donc en fait, si vous voulez, je fais là à l'heure d'aujourd'hui et je peux vous envoyer même sur Twitter ou quoi, je paye. Je fais 180 heures, je touche 1 400€. Pourquoi? Parce que les impôts me prennent quasiment tout.
Julien, du coup, est-ce que vous pourriez demander des acomptes? Est-ce que ça vous arrangerait,
en fait,
vous?
Nous, voilà, c'est pour ça que moi, l'idée, je la trouvais pas mal. Moi, quand je demande un acompte à ma société, je ne vais pas vous mentir, j'aime bien ma société, mais on dirait que je les emmerde. Donc, je ne demande plus d'acompte. Donc, ce qu'on fait, on essaye de survivre. Moi, j'ai moi qui travaille, j'ai ma compagne, ma compagne malade, ça veut dire qu'elle a un lupus, elle travaille quand même. On est obligé de gérer comme ça. Sauf que là, en ce moment, on n'y arrive plus parce que c'est trop cher. Parce que moi, pour faire à peu près 20 km aller, 20 km retour, je dois aller, on va dire, grosso. Ouais, j'en étais à peu près à 50-60€ par semaine d'essence. Et encore, je trouvais ça très, très, très cher. J'étais gilet jaune à l'époque. À l'époque, je passais aussi dans les GG pour les gilets jaunes. Là, je suis à 2,40€. Et je suis chez moi sur mon canapé en train de chouiner.
2,40, mais où est-ce qu'il est à 2,40 là?
2,40, là, si vous voulez, je suis passé à Total. La station de Total, elle est fermée.
Ah ouais, d'accord.
Donc carrément, elle est fermée.
Oui, parce que les Total sont victimes de leur succès puisqu'ils ont plafonné. Alors
donc, on est obligé d'aller dans les petites d'à côté, d'aller faire notre essence là-bas et de payer ou 2,19 ou 2,40. Ouais, moi, c'est essence, donc du coup, ouais, c'est 2,19, mais c'est pareil.
C'est essence.
Je me suis battu à 1,40 pour pas que ça passe à 1,60. Et là, à 2,19, voilà.
Mais à vous qui avez été gilet jaune, Julien, est-ce que vous êtes encore en contact avec d'anciens gilets jaunes sur les réseaux sociaux?
Oui, mais il y a personne, même dans la vie de tous les jours. Hein.
Et en fait, non. Ça va pas revenir, c'est ça que je vais vous demander.
Ah non, ça reviendra pas. Monsieur, écoutez, on s'est fait défoncer par les forces de l'ordre. On s'est fait ruiner. Vous croyez? Et on n'a jamais été écouté. Dans les radios, on nous faisait passer pour des nazis. Ou alors, on nous disait, oui, c'est Poutine qui vous maintient. Non, non. Les gars, nous, on veut juste survivre. C'est tout. Il n'y avait pas de Poutine. Il n'y avait pas de nazisme. Je sais pas où les médias, ils ont vu ça. Donc, non, on n'ira pas. On retournera pas.
Okay.
Et tant pis. Et surtout, moi, je me rappelle de la France, de la phrase du grand politicien Louis Boyard qui nous disait, voter pour Macron et combattre ces idées. Mais comment on les combat, ces idées, avec un litre d'essence à 2,20 €? On les combat comment, ces idées?
Eh ben, Julien, c'était justement le cœur de notre discussion quand on a commencé l'émission. Et Julien, bah voilà, les fins de mois difficiles, pas la paye qui n'a pas été virée là pour, alors qu'on est le 30 du mois. Est-ce que c'est une bonne idée d'être payé, de demander des acomptes? Non, vous dites mauvaise idée à 73%. Allez, suite des GG dans un instant. On va s'intéresser à la tentative d'attentat devant la Bank of America. Le ministère de l'Intérieur qui appelle à la prudence. Est-ce qu'on doit craindre, avec la guerre au Moyen-Orient, un retour des attentats en France? C'est au 32-16 que ça se passe avec vous.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.